RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Autour de la table aujourd'hui, Flora Gebali, l'entrepreneur dans la transition écologique. Didier Giraud, notre éleveur de bovins en Saône-et-Loire. Et Antoine Dier, ce consultant de Dunkerque. De quoi va-t-on parler? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée de libération fiscale.
Oui.
C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, nous travaillons pour nous et nous ne travaillons plus pour remplir les caisses de l'État via les impôts, cotisations, TVA, etc. Alors, cette journée est décalée 4 jours cette année. C'est-à-dire que les charges ont augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage entre ce que nous dit le gouvernement,
pas d'impôt,
nous expliquant qu'il n'y a pas d'impôt qui augmente, tout va bien, et finalement la réalité de ce que vivent les Français. On en parlera dans un instant. Et puis on reviendra également sur l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs. Visiblement, c'est pas tellement respecté par les épiciers eux-mêmes. Il y a une campagne qui est lancée pour inciter les épiciers à faire respecter la loi et à demander la carte d'identité quand il y a un doute sur l'âge du client. Mais avant cela, on va bien sûr revenir sur cette France qui brûle, l'été est meurtrier, les incendies un peu partout. 2 sapeurs-pompiers ont perdu la vie hier en Gironde, et dans le Var en ce moment, le feu qui a déjà parcouru plus de 2500 hectares n'est toujours pas maîtrisé et les pompiers se battent.
Cette nuit, au plus fort de la lutte, nous avions 1200 hommes, donc ça a monté en puissance hier soir. On a augmenté la surface puisque le feu a continué à avancer. Nous sommes, au moment où je vous parle, puisque nous avons passé les drones ce matin, à 2550 hectares. Il est pour l'instant contenu dans son enveloppe, c'est-à-dire qu'il progresse plus beaucoup. Néanmoins, nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes encore dans certains endroits. C'était compliqué, ça a été compliqué pour les gens au sol, parce que c'est très boisé et que mettre des véhicules au milieu de ça, c'est pas toujours simple.
Toute la nuit, les pompiers se sont battus contre le feu qui sévit en ce moment dans le Var. Alors, il est contenu, il ne progresse plus beaucoup, mais il n'est toujours pas fixé. Il y a des points chauds, les pompiers qui ont le renfort de moyens aériens. Il y avait d'ailleurs ce matin des Canadairs et deux Dash qui étaient en action. Il y a ces pompiers qui sont morts en Gironde. Là, l'incendie a été maîtrisé. D'ailleurs, sur place, tout à l'heure, le ministre rendra hommage aux sapeurs-pompiers, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Mais j'entendais le maire de Cotignac dans le Var qui expliquait que finalement, dans son département, on est en alerte rouge, hein, incendie. Donc interdiction d'aller se balader en forêt, etc. Eh bien, il voit des randonneurs, il voit des gens. Alors, est-ce qu'on a vraiment pris conscience du danger? Est-ce qu'on est vraiment vigilant? Et c'est la question que je vous pose au 32-16, Antoine Dierz.
Pour ma part, moi, j'ai bien conscience du danger, mais je pense qu'effectivement, une partie des gens aujourd'hui continue à jeter des mégots de cigarettes, continue à être inattentifs. Je pense qu'on devra aussi creuser à la fin de l'été le nombre d'actes criminels, de mise à feu,
d'incendies
pyromanes, d'incendies volontaires.
À Fontainebleau, il y a des pyromanes qui ont été arrêtés.
Voilà, il faudra qu'on en parle réellement.
Fontainebleau, ouais.
Et encore une fois, en fait, pardon, mais même le truc accidentel de j'ai jeté mon mégot, etc., on doit essayer de remonter à la personne et de lui faire payer les dégâts qu'elle a causés. Ayons une logique de responsabilité dans notre pays. Tu fous le feu à une forêt, t'es responsable du remboursement de la forêt.
Mais quand on passe des messages, on ne cesse de répéter qu'il y a des départements rouges, etc. Flora Gebali, comment ça se fait qu'il y a encore des gens? C'est quoi? C'est de la bêtise? C'est de l'imprudence? C'est de l'irresponsabilité, Flora? Parce que maintenant,
la forêt, c'est pas juste un coût, c'est pas juste tu payes la forêt. La forêt, c'est des centaines d'années pour qu'elle repousse, voire des milliers d'années. Donc en fait, on perd des choses qu'on récupérera pas, alors de notre vivant autour de la table, mais même du vivant de nos arrière-petits-enfants. Donc, on peut la replanter, mais le vivant, c'est tout le principe, c'est que c'est des cycles qui sont très longs, et c'est grâce à ces cycles très longs qu'on a de la biodiversité, qu'on a de l'oxygène, qu'on a de l'eau, qu'on a des conditions climatiques qui nous permettent de vivre de manière épanouie. Là, ça va changer, et ça change déjà puisque le feu est arrivé jusqu'à l'Île-de-France. On n'était pas habitués. Bientôt, je vous le souhaite pas, mais vous l'aurez aussi dans le Nord.
Mais c'est un pyromane.
Vous avez déjà des inondations, d'ailleurs, et en fait, que ce soit lancé par un pyromane ou par une une cigarette, avant, on éteignait un feu beaucoup plus facilement. C'est parce que c'est très sec que ça s'enflamme autant et que ça brûle autant et que c'est si dur à contenancer. Donc, maintenant qu'on a dit ça, bien sûr que, moi je l'ai dit au GG, les gens qui jettent leurs cigarettes encore en forêt sont des criminels. Ils doivent avoir une peine qui est très lourde. Les pyromanes, bon, alors eux, c'est des malades mentaux, donc ils doivent avoir un traitement psychiatrique adapté.
Et une peine,
bien sûr. C'est le faux débat. C'est-à-dire, c'est exactement comme la clim. Évidemment que accoucher sans clim, c'est horrible. Que être malade en chimiothérapie sans clim, c'est horrible. C'est pas un scoop. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut de la clim en urgence, non seulement dans les foyers français, puisque grâce au nucléaire, ça consomme pas tant d'énergie que ça, mais aussi, et encore plus en urgence, dans tous les hôpitaux, EHPAD, écoles, crèches et services publics. Une fois qu'on a dit ça, ni la clim, ni la criminalisation des randonneurs qui jettent leurs mégots par terre ne va arrêter l'emballement climatique dans lequel nous sommes. Ouais, enfin, et l'emballement climatique dans lequel nous sommes, il est criminel. Donc en fait, c'est s'attaquer à un faux problème pour éviter l'éléphant dans la pièce.
Didier Giron. Elle a arrêté avant.
Elle
est sortie du
Louis tunnel. Gerbier, bon, tu vas prendre là, très là, cher. Qui a fait ça, mais c'est très grave, c'est parce que j'avais fini ma phrase juste avant.
C'est d'ailleurs l'anniversaire de Charline. On lui souhaite un bon anniversaire.
Tu
faisais juste de sortir du tunnel.
Non mais Flora, tu poses le débat à l'échelle de la planète et de l'histoire de l'humanité, et t'as certainement raison. N'empêche que concrètement aujourd'hui, il y a des applications à mettre en œuvre. Enfin moi, si je prends mon cas personnel, tu vois, j'ai des chardons en fleurs. Une loi dit les chardons en fleurs, c'est passible d'amende, et tu peux, depuis Napoléon, tu dois pas avoir des chardons en fleurs. N'empêche qu'aujourd'hui, si on sort un broyeur pour broyer les chardons, c'est sûr qu'on allume. Donc il y a personne qui broie ses chardons.
Non mais il y a une loi qui interdit d'avoir des chardons en fleurs.
Napoléon.
Quel rapport avec le schmilblick, Didier ?
Eh ben, j'adapte mon travail au risque incendie.
Oui, parce que le travail agricole,
ça crée des incendies. Oui. Broyer des chardons, t'es sûr que t'allumes, quoi. Hein. Le peu que t'as une pierre, ça allume. Il y a plein de zones en France où les moissons se sont faites entre 10h du soir et 5h du matin. Et aujourd'hui, dire que il y a des conséquences, oui, et on a pris la mesure. Après, derrière ça, moi, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire. Hein. Si demain matin, je vois un mec qui balance un mégot d'une voiture, je le prends en photo et je vais le dénoncer aux gendarmes, quoi. À un moment donné, c'est un acte citoyen que de faire prendre conscience à ces gens.
Balance ton mégot.
Non, mais ils sont criminels, quoi. Pour moi, un mec qui lance un mégot d'une fenêtre ces jours, il est dans la même catégorie que celui qui va sciemment allumer, quoi. Et derrière ça, tu vois le.
Il y a le préfet du Var, justement, qui expliquait la dernière fois sur BFM TV que lui-même, il avait vu un automobiliste devant lui faire cela, donc il l'avait réprimé, etc. Mais peut-être qu'il l'aurait dû.
Non, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la justice qui se mette en œuvre. Et derrière je suis quand même un peu dubitatif, je l'ai déjà dit, mais je peux le répéter. Quand ça brûle aux portes de Paris, il y a le lendemain matin des incarcérations, hein, enfin, ou au moins des gardes à vue, il y en a brûlé 2000 hectares à Fontainebleau, il y en a déjà brûlé 2500 hectares autour de Puget-sur-Argent et Cotignac et dans le Muy et ces endroits-là. J'ai pas écouté parler d'une garde à vue encore, quoi. De là à croire que parce que le ministre se déplace, parce que le président de la République se déplace à Fontainebleau, toute la machine de l'État se met en branle plus vite pour trouver des auteurs que quand c'est au fin fond de la France, tu m'excuseras, mais moi le raccourci, je le fais.
Je suis assez d'accord, mais Emmanuel Macron devrait même pas se déplacer, ou alors il se déplace partout. Si tu vas à Fontainebleau, tu vas dans le Var. Ça c'est tout le problème.
Non mais.
Parce qu'il suit les caméras.
Ils sont montés dans les Twingos de BFM et qui peuvent pas aller plus loin que Fontainebleau.
Oui, mais ça, les politiques, ils sont toujours comme ça, vous le sais bien.
Non, mais tu vois, il y a eu 4 départs de feu hier après-midi.
Mais c'est quoi les solutions pour que les gens soient plus vigilants?
Il y a eu 4 départs de feu hier après-midi dans un rayon, de, je sais pas, 2 ou 3 kilomètres autour de Valdaon dans le Doubs. Les gendarmes disent, on n'a pas les moyens de choper le mec, quoi. Alors, voilà.
D'accord, mais c'est quoi les solutions pour que les gens soient plus vigilants? La répression, j'ai bien compris. Mais
si la randonnée est interdite, et que tu chopes un randonneur, il doit être sanctionné d'une amende de l'ordre du millier d'euros ou de 2000 euros. Il faut que ce soit réellement
dissuasif.
Dissuasif, merci. Voilà. Mais en France, on ne sanctionne pas les gens. Et déjà là, il y en a qui m'entendent et qui disent oh, il abuse, 2000 euros, enfin. Mais pardon, mais il faut aller dans la répression parce que les gens ne comprennent pas.
Et puis Nicolas est avec d'autres sujets. Il y a quand même des gens, des mineurs qu'on met en centre fermé, on ne sait pas quoi en faire. Et ben à un moment donné, qui défrichent. Et puis je vais reposer sur la table aussi quand même le problème du pastoralisme, quoi. Parce que c'est des zones, ils brûlent dans des zones aujourd'hui où il y a de la friche. Allez. Et il n'y a plus de pastoralisme.
Nous sommes avec un sapeur-pompier professionnel, c'est Nicolas qui nous appelle du coup.
Salut les GG, comment ça va ?
Ben, pas mal, et vous ?
Nicolas, tu... ça va, c'est calme.
Vous êtes près d'où là ?
Moi, je viens de rentrer de ma garde, là, du coup. J'ai fini cette nuit, là, donc je viens de rentrer. Donc aujourd'hui, c'est repos, c'est bricolage à la maison.
Mais vous gardez quoi ?
Non, de ma garde de mon travail, quoi.
Oui, oui, d'accord, ah oui. Voilà. Ça brûle dans le Rhône.
Nous dans le Rhône, c'est il y a quelques feux de végétation hein, quand même quotidiennement. Hein, c'est pour ça aussi que je vous appelais, c'est qu'en fait on parle beaucoup du sud, on parle beaucoup de la Gironde, tout ça, mais en réalité cette année c'est la France entière qui brûle. Et
c'est ce que j'ai dit, la France brûle.
Tous les 10 travaillent tous les jours au feu.
Voilà, tous les jours quotidiennement et du nord au sud, quoi. C'est vraiment la totalité du territoire qui est impacté. Et c'est ce qui est exceptionnel cette année, c'est ce qui mobilise énormément de moyens, énormément de forces. Et qui fait qu'il y a un petit moment, on va taper toujours sur les mêmes, et les mecs vont arriver à bout de souffle, je pense. Et on en est qu'au 22 juillet, hein. Il y a encore facilement 2 mois.
On se posait la question, Nicolas, pourquoi il y a ce manque de vigilance, enfin, en tout cas, des gestes inconscients, des gens qui se baladent là où il faudrait pas se balader, des jeteurs de mégots.
Je pense qu'on est dans une société individualiste et que les gens n'ont plus rien à foutre des consignes. Donc ils ont envie, ils en font qu'à leur tête, ils sont en vacances, ils ont décidé d'aller se promener, ils y vont quand même.
Je suis en vacances dans le Var, j'ai envie d'aller voir Cotignac, etc. Laissez-moi me balader.
Et là, même si j'en discutais avec au standard, avec Alexandre, mais même si effectivement, des fois, c'est pas forcément très bien indiqué, je pense que là, à l'heure actuelle, on peut plus, enfin, personne peut
ignorer.
Pas au courant que les forêts sont à risque. Enfin, je veux dire, on en parle tous les jours, on en parle de partout. Maintenant, ce que je pense, c'est que les promeneurs qu'on chope, là, contrairement à ce que dit Antoine, je leur mettrai pas 2000 euros. Moi, je les récupérerai, je les emmènerai sur une intervention, je leur mettrai un faux-pompe sur le dos, et en avant, on va aller gratter les souches.
Ça serait une bonne idée. Ils se rendent compte de ce que c'est d'intervenir sur un feu.
C'est éducatif comme ça.
Faites gaffe, ils vont fumer une clope en intervention.
Et faire du défrichage, comme disait Didier, pareil. Faut défricher, faut les impliquer, les gens, en fait. Et quand ils auront fait un petit peu de labeur pendant des jours, ils vont se rendre compte de ce que c'est. La prochaine fois, ils feront attention.
Mais même les pyromanes,
Je crois que les pyromanes,
il faut qu'ils aillent au défrichement et au replantage. Le travail physique, ça a des vertus.
Je suis pas sûr que ça soigne des maladies mentales, mais bon.
Ça a des vertus.
Nicolas.
Oui, mais au moins, ça fera prendre conscience.
Bien sûr,
Des dégâts.
Voilà. Nicolas. Je parlais de vos deux collègues qui sont morts en Gironde, en intervention. Ils étaient dans un véhicule. Vous avez des précisions, vous, de votre côté ?
Non, moi, pour l'instant, on n'a pas eu plus de le retour. Je pense qu'on aura un communiqué dans les prochains jours. Mais voilà, donc ils sont visiblement, ils sont morts dans leur véhicule. Je peux pas trop plus vous en dire. Je trouve ça dramatique. On a une pensée pour eux, évidemment, parce que on ne devrait pas perdre une vie, même pour sauver un hectare de bois, quoi. C'est pas possible.
Il y a trois pompiers qui sont morts.
Mais le feu, maintenant, est tellement violent, tellement vite, dès qu'il y a du vent, la végétation est tellement dense cette année qu'on va arriver à des situations comme ça. Les mecs commencent à être fatigués, les engins sont usés. En fait, on s'est sollicité tous les jours. Donc, je pense que des accidents, et malheureusement, il y en aura d'autres.
Oui, c'est ça.
Il y en aura d'autres. Faut que tout le monde s'implique, dans la prévention et que les gens fassent vraiment attention, ils se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir.
Oui, c'est ça. C'est en fait, on se rend pas compte des conséquences.
Et les nouveaux engins qui sont censés pouvoir se couvrir d'un rideau d'eau, ça fonctionne, ça, Nicolas ?
Bien sûr, mais ça fait des années déjà qu'il y a un système d'autoprotection qui est là pour protéger les engins quand on est pris par le feu. Encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il y a eu un souci mécanique, peut-être que ça n'a pas fonctionné, je sais pas, peut-être que ça a quand même fonctionné, mais que le feu était tellement violent que c'était insuffisant, ça je peux pas vous dire, mais effectivement, on a des normes. On part pas avec n'importe quel engin au feu pour pouvoir les engager, il y a des normes à respecter. Et les mecs sont formés à utiliser, enfin voilà, on fait pas ce qu'on veut, effectivement, le risque est tellement important que derrière, il y a quand même un minimum de normes et de législatifs derrière, c'est obligé.
On est correctement équipé en France par rapport aux autres pays comme l'Espagne, enfin les pays du Sud, la Grèce, qui sont très confrontés aux feux de forêt.
J'ai quand même l'impression qu'on est mieux équipé qu'eux, parce que c'est vrai que quand on voit les superficies brûlées, on arrive quand même plus facilement à contenir en France qu'en Espagne. Par contre, là où je pense que ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on vit des situations que vivaient l'Espagne, le Portugal, la Grèce, où en fait la totalité du territoire est impactée. Et jusqu'à présent, ça c'était quand même assez exceptionnel. Et là, vraiment, on s'en rend vraiment compte cette année. Hein. Vous regardez une carte de France avec les départs de feu, c'est de partout. Ouais. C'est vraiment de partout, quoi.
C'est partout, c'est tous les jours. Parce que là, c'est
le nord pouvait descendre au sud, mais maintenant, ça va devenir plus compliqué parce que même si au nord ça brûle, il va y avoir besoin des moyens dans le nord, quoi. Ouais. Donc,
Ces jours, ça fait quand même un peu plus frais les matins, mais ça n'arrête pas le nombre de départs de feu, quoi.
Et non, puis il y a du vent, en plus l'après-midi. Ah oui. De toute façon, la végétation, bah, tu le vois bien tous les jours, Didier, c'est complètement... Ouais. On touche l'herbe, elle se désagrège.
C'est complètement sec.
C'est une catastrophe.
Mais c'est ça, c'est qu'il y a multicause, quoi, en fait. Hein.
Ouais, merci, Nicolas. Merci d'avoir appelé au 3216. Bon courage, le sapeur-pompier du côté du Rhône, à Cublize, précisément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces incendies. On a posé une question sur le compte X des Grandes Gueules, sur la vigilance par rapport à ces risques. On le voit, cet été meurtrier du côté des pompiers et terrible pour la nature. Est-ce qu'on a le résultat de cette consultation? Elle arrive tranquillement. Voilà. Êtes-vous plus vigilant? Quand même, vous dites oui à 79,4%, enfin il y a quand même un non à 20,5%, donc il y a encore du travail. Dans un instant, aujourd'hui c'est une journée de libération fiscale, c'est-à-dire que ça y est, on travaille pour nous, on ne travaille plus pour payer nos cotisations, nos impôts, la TVA, etc. Alors on est les seuls en Europe à travailler autant pour les impôts, hein. Donc partout ailleurs, on est libéré plus tôt. Bien, surtout
là,
cette année,
on a
4 jours de plus de fiscalité, parce que les charges ont augmenté. Alors contrairement à ce qu'on nous raconte, si on nous dit non, les impôts n'augmentent pas en France, bah si, ça c'est la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Appelez-nous au 3216, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
RMC, RMC Story, vous connaissez l'adresse, les grandes gueules de 9h à midi en direct avec autour de la table aujourd'hui Flora Guébali, l'entrepreneur dans la transition écologique, Antoine Dierre, ce consultant de Dunkerque, et Didier Giraud, l'éleveur de bovins en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, nous sommes libérés, délivrés. Non.
Tous les parents
qui sont en boucle. Ça, c'est vrai que c'est un cadeau un peu empoisonné parce qu'après tu l'as dans la tête toute la journée.
Toute la journée.
Alors c'est vrai qu'on est libéré, délivré. En tout cas, nous les contribuables, parce que les contribuables que nous sommes, nous avons fini de nous acquitter de tous les impôts et cotisations annuelles. On commence à toucher véritablement notre salaire. Les salariés français sont d'ailleurs encore une fois les derniers en Europe a terminé de s'acquitter des impôts et cotisations qui pèsent sur les salaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hausse des charges qui a fait reculer la libération fiscale française de 4 jours cette année. Donc on est à contre-courant de la communication officielle du gouvernement qui nous explique à chaque budget que les impôts n'augmentent pas. C'est faux. D'une manière générale, la pression fiscale est toujours là, elle est même de plus en plus forte. Alors libérer, bien sûr tout ça est virtuel, hein, mais ça dit quelque chose aussi de cette pression fiscale à mettre en parallèle à tous les manquements finalement de l'État qui achète en catastrophe des climatiseurs pour les hôpitaux, qui n'est pas capable parfois de mettre les moyens suffisants pour la justice, pour la police, pour l'éducation nationale. Et là, on n'y comprend plus rien, Antoine Dias.
Réjouissons-nous. Nous sommes champions de la pression fiscale en Europe. Tu l'as dit, l'impôt a encore progressé malgré les discours politiques. C'est plus 1,2%. Donc plus 1,2% de prélèvement public par rapport à l'année dernière. J'ai parcouru le rapport, j'aime bien mettre quelques chiffres. Donc il y a 55,6% du salaire brut qui part à l'État et il n'en reste aux salariés que 44,4%.
La différence entre le brut et le net. C'est comme ça qu'on arrive au 22 juillet.
Le super brut et ce que tu te mets dans la poche à la fin. Le rapport dit que la France est le seul pays en Europe où les cotisations payées sont supérieures au pouvoir d'achat final dans la poche du salarié après impôt. Donc on paye plus de cotisations que ce qu'on a dans la poche à la fin du mois. Il y a un point intéressant que j'ai noté, c'est que les cotisations retraite représentent 28% du brut. Eh c'est, oui. C'est un des postes majeurs. 28%. Ça nous classe en termes de cotisation, retraite, au quatrième rang européen. Il y a des pays européens où on paye plus pour la retraite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde nous dit, ben oui, mais Antoine, c'est important, on est bien protégé.
C'est du salaire différé.
C'est du salaire différé. Mais, en réalité, si on est au quatrième rang des prélèvements sur les cotisations retraite, on est au 16e rang pour le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est l'argent qui vous sera réellement donné à la fin, une fois que vous prendrez votre retraite, comparativement à tout ce que vous avez payé. Et donc, en réalité,
c'est un système qui n'est pas très profitable aux retraités.
En réalité, au-delà du montant de tout ce qu'on paye, on se rend compte qu'en plus, on est mal servi après avoir payé tout ça. Ça n'est pas rentable. Ce système de cotisation n'est pas rentable en plus d'être cher. Eh ben, vivement qu'on arrête. Hein.
Non, mais tu peux saucissonner le truc comme tu veux. Globalement, on est les champions pour payer en Europe et dans le monde presque, et globalement l'État, mais même sans saucissonner entre les retraites, entre les prestations sociales, entre ce que tu veux, l'État réutilise mal notre pognon parce que tout le reste, il y a rien qui tient debout. Et je pense que on peut pas non plus faire le procès que de Macron. Je suis arrivé à cette émission de tête. La journée de libération de nos bourses, elle était fin mai. Voilà. Donc ça veut dire que depuis 18 ans, tout le monde s'est succédé pour rallonger les délais, qui fait que aujourd'hui, on est arrivé au 22 juillet, quoi. Moi,
pourtant, on nous promet à chaque fois l'inverse.
Je rechigne pas à payer des impôts, mais je pense que aucun Français ne rechigne à payer des impôts. Faudrait juste qu'à un moment donné, les Français, ils voient le sonnant et le trébuchant de leurs impôts et que le régalien dans ce pays fonctionne. Voilà, c'est juste ça qui demande les Français.
Il y a des pompiers qui ont perdu la vie hier et qui sont en état d'urgence et de crise absolue parce qu'ils sont en train d'essayer d'éteindre les incendies. Les pompiers, ils sont payés par qui ? Ils sont payés par nous. Donc quand on dit à partir d'aujourd'hui, vous travaillez pour vous, on travaille pour nous depuis le 1er janvier puisque nos enfants vont à l'école depuis le 1er janvier, que nos pompiers travaillent, nos policiers...
Parce que toi, tu trouves que l'école et les pompiers...
Chacun son tour.
Je t'ai laissé mettre un tunnel de 4 heures. Depuis le 1er janvier, il y a des services publics qui travaillent pour nous. Il y a nos entreprises qui peuvent embaucher parce qu'elles sont aidées par nous. Il y a nos politiques qui travaillent parce qu'ils sont payés par nous. Et en fait, moi, je ne commande pas une étude qui est non seulement fausse dans le titre, puisque journée de libération fiscale, on travaille pour nous depuis le début,
mais surtout Molinari, c'est
qui
correct,
est commenté par un institut Molinari qui totalement décrédibilisé puisqu'ils bossent pour le lobby du tabac et ils sont climato-sceptiques.
Ah bah,
et c'est écrit sur tous les sites. Institut...
Ouais, parce qu'ils sont climato-sceptiques, ils sont de fait hors jeu du débat.
Donc moi, je vous ai laissé parler l'un puis l'autre, mais toi, tu m'as coupé la parole deux fois et toi une fois. Donc on parle d'un institut...
Tu peux dérouler ton tunnel aussi, vas-y.
On parle... Non, mais demain, la DZ Mafia va publier une étude pour expliquer que il faut aller buter Emmanuel Macron et vous allez dire bah oui allons-y tout de suite puisque la DZ Mafia nous l'a demandé. Donc on parle d'un institut qui relaye les pires fake news qui en fait ont fait qu'il y a deux pompiers qui sont morts. On parle d'un institut qui a du sang. On parle d'un institut le rapport entre les climato-sceptiques.
Les pompiers sont pas morts parce qu'il manquait de moyens.
Les pompiers sont morts parce qu'il y a des incendies à cause des sécheresses qui sont dues au réchauffement climatique.
Les sécheresses elles sont pas dues aux climato-sceptiques.
Donc il y a un institut, un think tank, je mets des gros guillemets parce que c'est un institut qui a du sang sur les mains tout simplement, qui vous dit quelque chose et vous comme des moutons c'est Molinari qui l'a dit. Alors c'est vrai qu'on travaille c'est vrai qu'on travaille depuis le 1er janvier pour engraisser les impôts, mais c'est quoi les impôts en démocratie? C'est ce
donc
qui finance,
donc on peut jamais remettre en cause les impôts.
Mais je vous souhaite pas
l'efficacité de l'argent que tu donnes aux impôts.
Olivier,
tu as
eu un accident de vélo l'année dernière, t'es allé à l'hôpital, t'étais content qu'on te soigne,
dysfonctionne, la sécurité dysfonctionne, la justice dysfonctionne,
mais
l'hôpital dysfonctionne.
Personne autour de la table a dit qu'il ne fallait pas payer d'impôts.
En revanche,
tout le monde se dit
chaque année plus.
On en paye chaque année plus qu'ailleurs en Europe. Et ça marche pas mieux qu'ailleurs. Donc pardon.
Ça marche moins bien.
Effectivement, on dit bêtement. Bah oui, mais les impôts c'est important. Ça
marche. Mais tu comprends, Olivier.
Soit on essaie de comprendre
c'est
pourquoi ça marche pas.
C'est des climato-sceptiques qui disent ça. Donc ça les discrédite.
Bah moi les instituts, les instituts,
quand je vais à l'hôpital,
moi les études,
les études
publiées par des lobbies, ça ne m'intéresse pas.
Quand je vais à l'hôpital et que les infirmières m'expliquent que chaque année on leur promet qu'il fera pas 38 l'été, mais parce qu'ils auront de la clim, parce que ça, et que
mais j'ai pas dit que les services publics étaient bien gérés.
Et à côté de ça, je vois ma feuille d'impôt où chaque année les impôts augmentent. Excuse-moi, Flora, en tant que citoyen, je me posais la question où va mon argent.
Alors d'accord,
je pense que beaucoup de Français se posent cette question.
Mais ça, c'est une question qui est légitime
et qu'on peut se poser
tous ensemble. Là, la question qu'on pose, c'est pas ça. C'est la libération fiscale. Oui. Regarde, sur l'écran, il y a écrit « ça y est, vous travaillez pour vous ». Mais en fait, on travaille pour nous depuis le premier jour de l'année, puisque les impôts servent à être redistribués. Et donc en fait, cet argumentaire-là est biaisé.
Là, on a le point. Les impôts servent à être redistribués. On a le point dramatique.
Ça sert à ça.
C'est la vision de gauche parfaite de l'impôt.
Non, c'est la réalité.
L'impôt, il sert pas à être redistribué. L'impôt, il sert à produire du service public. Et juste du service public. Et arrêtez de prendre dans ma poche pour donner à un autre. Arrêtez de redistribuer. C'est ça qui fait que plus personne n'a envie de travailler dans notre pays. Et donc, l'impôt, il doit servir à produire un service pour que les gens qui l'ont financé, ont financé le service, puissent en profiter et que ce soit bien.
Nous sommes avec Giulio. C'est comme ça qu'il faut prononcer, Giulio ?
Giulio.
Du Pas-de-Calais.
Là, oui, vous allez bien?
Il y a un décalage. Giulio du Pas-de-Calais. Comment vous faites, vous, alors, par rapport à ces impôts qui nous sont augmentés?
Alors, vous écoutez, il y a de sacrés parallèles qui sont faits par Flora. Hein. J'ai rien contre vous, Flora, mais il y a quand même sacrés parallèles. Alors, pour ma part, moi, je me suis libéré tout seul. Hein. C'est-à-dire, ce que je fais, je suis tatoueur. Et moi, en fin de compte, je me suis libéré tout seul, puisque maintenant, je prends une bonne partie au black. Voilà.
Vous ne déclarez pas tout?
Ah, pas du tout. Ah, non, je déclare un minimum.
Oui, mais comment vous allez faire avec votre retraite?
Parce que toi, tu vas faire comment avec ta retraite?
Alors, en fait,
on va être
clair. Donc, déjà, j'ai travaillé quelques années avant d'être tatoueur. Et puis maintenant, alors déjà, en tant que patron, nous, la retraite, quoi. En plus, on sait très bien que ça va être compliqué. Moi, la retraite, je la fais moi-même, je la fais tout seul. Je la fais avec des véhicules que j'ai anciens, que je revendrai, avec certaines choses.
Vous constituez un patrimoine.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est mauvaise, notre retraite.
Par exemple, sur le black, parce que aujourd'hui, il y a quand même des contrôles. Comment vous faites? Parce que vous êtes obligé de déclarer une partie, quand même.
Alors, moi, comment je fais tout simplement? Alors, déjà, les contrôles sont très rares. Sont très, très rares. D'accord, déjà d'une. Après, moi, je fais pas ça.
Du coup, qu'est-ce qu'ils arrivent?
Après la télé, il est en route, le vote, Giulio.
C'est pour ça que j'ai fait quelques modifications.
Oui. Il n'est pas dans le Pas-de-Calais, il s'appelle pas Giulio.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi avoir choisi Giulio comme pseudo?
Pour être honnête, tout simplement, moi, sur une certaine base que je fais par mois, je déclare environ 30%. Et le reste, je le prends black. Mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Vous savez, dans mon métier, on a voulu, là où je travaillais avant, dans ma première boutique, on a essayé, on s'est dit, tiens, on va être réglo. Quand on me prend 30% du staff, quand on me prend de la CSE des entreprises, quand on me prend aussi mon ramassage de poubelles, parce que forcément, c'est pas les mêmes poubelles, quand on me demande de payer la SACEM, la SPRE, et que je fais mon calcul, et qu'à la fin du mois, je prends 2000 euros pour prendre des risques, tant que je travaille pour un patron.
Exactement.
Et là maintenant, avec mon calcul, je m'en sors beaucoup mieux.
Même les chirurgiens font ça aujourd'hui, donc.
Mais oui. Et moi, ça me dérange pas de payer des impôts, mais qui sont utilisés. Hein, il y a des problèmes partout dans l'éducation, dans la police, dans les hôpitaux. Vous savez, ma femme, elle est prof. Elle a préféré arrêter. C'est terminé. Ils l'ont usé. Au bout du coup,
merci. Merci Giulio.
Merci à vous les femmes.
Ah voilà, je l'adore forcément, vous l'avez cherché.
Ouais, c'est ça. Merci à tous.
Merci Giulio. Gilles est avec nous du côté de Lyon. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour à tous.
Alors, que pensez-vous de cette journée de libération fiscale? Ça tombe aujourd'hui cette année.
La libération fiscale, je pense que le mot est un peu galvaudé. Dans ce pays, on n'est pas libéré fiscal, on est dans un pays communiste. Comme je disais à votre collègue au téléphone il y a quelques secondes, si je vous donne mon imposition, vous allez halluciner. Cette année, je suis à plus de 41 000 euros d'impôt sur le revenu. Et dans ce pays, il n'y a aucun service. Il n'y a plus rien. Ça part à volo. C'est un pays communiste. On me taxe. Et ils ne savent faire que ça.
Et vous n'êtes pas sûr en plus que vous y ayez pour votre argent, dans le sens où vous trouvez que les services publics se dégradent, que c'est pas bien géré.
Il y a tout rien. Je vous donner un exemple. Moi, j'ai une fille qui a un problème aux yeux, qui a moins 9 aux yeux. Vous savez combien on pense à la sécurité sociale sur les paires de lunettes qu'elle doit prendre? 12 centimes. Ah oui. 12 centimes.
Vous êtes content d'avoir cotisé. 12 centimes. Oui, alors, Gilles, vous savez, dans ce pays, il y a 40% des Français qui donnent plus que ce qu'ils reçoivent. Donc, quand on parle de redistribution, eux, ils sont en
vain. Et du coup, ils donnent toujours plus.
Entre guillemets, ils sont perdants, ces Français, parce mais qu'ils donneront toujours plus. Il y a quand même, Gilles, je termine, il y a quand même 60% des Français qui ont plus que ce qu'ils donnent. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que la redistribution, elle existe dans ce pays, et qu'il y a des gens qui, grâce à ça,
dans le milieu, c'est ce qu'on appelle du vol organisé. Il y a le déficit quand même.
À un moment donné, il faut arrêter. Ouais. À un moment donné, il y a un truc qui est sur le fronton de nos mairies, qui est liberté, égalité, fraternité. À un moment donné, il faut peut-être un peu d'égalité. C'est-à-dire que tout le monde paye de l'impôt sur le revenu. Tout le monde. Que vous payez 1 euro, ou 5 euros, ou 10 euros, ou que je les paye, mais tout le monde en paye. Et pas qu'il y en ait 80% qui passent à la trappe. On est combien à payer de l'impôt sur le revenu aujourd'hui?
Ben oui, à peine 40%.
Ouais, je crois.
Merci Gilles. On a posé la question sur cette journée de libération fiscale à partir d'aujourd'hui. Donc vous travaillez pour vous. Est-ce que la pression fiscale est devenue insupportable? Sans surprise, vous dites oui à 92,6%. Ça sera l'un des sujets, à mon avis, de la campagne présidentielle, avec sûrement des promesses.
Même
mais
pas
seront-elles tenues? C'est la question. Vous savez qu'il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Le problème, cette interdiction est assez peu respectée par les épiciers. Alors justement, on veut les sensibiliser. Alors, est-ce qu'ils font ça? Ils ne respectent pas la loi, parce que c'est pas toujours simple de demander une carte d'identité, ou parce que c'est un client et on n'a pas envie d'embêter un client. Tiens, mais vous tenez une épicerie, appelez-nous au 3216 pour nous dire comment ça se passe dans votre quotidien. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Vous êtes sur RMC si vous êtes en train de nous écouter dans la voiture, la radio. Vous êtes sur RMC Story si vous êtes devant la télé. Et n'oublions pas que cette semaine, on vous fait gagner un séjour au parc Astérix. 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes. Donc en famille, 2 adultes et 2 enfants. Séjour de 2 jours pour découvrir les 50 attractions et spectacles que propose le parc pour cet été gaulois. Alors pour remporter votre séjour au parc Astérix, c'est très simple. Vous envoyez le mot parc au 732-16. Parc au 732-16. Tous les jours, une gagnante ou un gagnant en direct dans les Grandes Gueules vers 11h20. À vous de jouer, à vous de gagner. On va parler maintenant de l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs qui visiblement n'est pas très respectée.
Ah. Le grand jojo. Pas le grand jojo, ça.
Licence 4.
On a soif. On a soif. Le problème, c'est que vendre de l'alcool aux mineurs, c'est interdit. Et visiblement, c'est pas respecté par tous les commerçants. D'où le lancement d'une campagne de communication dans les commerces. C'est une info RMC pour lutter contre ce fléau. La Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité lance cette campagne avec des tracts, des affiches, des flyers, des stickers. Tout est fait pour donner un maximum de visibilité et pour rappeler aux commerçants qu'il faut faire respecter l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs. Alors c'est vrai que parfois certains commerçants disent que ça provoque des tensions dans les magasins, parce que les jeunes forcent un peu, ne veulent pas donner leur carte d'identité. Peut-être aussi que certains commerçants sont laxistes, complaisants, parce que c'est un client. Est-ce qu'il faut être plus dur, parce que c'est un fléau l'alcool et qu'il faut lutter dès le plus jeune âge? Didier Giraud.
Je trouve que le sujet présenté comme ça, il n'est pas complet, parce qu'en fait, t'occultes tout un pan de la société et de la France, quoi. Quand on parle d'épicier, on est dans une relation de proximité entre quelqu'un qui tient une épicerie et des jeunes qui est en confrontation directe. Il y a aussi tout ce qui se passe dans les grandes surfaces, quoi. Et en milieu rural, des épiciers, il y en a plus. Il y a plutôt des grandes surfaces. Alors, on peut considérer que c'est des grands épiciers, mais il y a aucune caissière de chez Leclerc, de chez Intermarché ou de chez Auchan qui demande la carte d'identité d'un jeune qui passe avec un caddie rempli de bière ou de bouteilles de vodka. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Bien sûr, elles le font. Mais
d'où?
Mais d'où, c'est pareil, l'épicier ou le caissier, c'est pareil.
Une caissière de chez Leclerc.
C'est la même chose.
Qui fait 4 heures par jour, puis 2 heures, puis 3 heures, qui est payée 930 balles par mois, va aller prendre un coup de couteau en demandant la carte d'identité des jeunes. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie et je vois pas.
Oui, mais c'est la responsabilité du commerce.
Mais on est d'accord.
Vérifier l'identité.
On est d'accord, c'est encore une loi à la con pour appliquer, quoi. Enfin, je dis pas que la loi, elle a pas de fondement, elle est pas, mais ça fait partie des choses qui sont pas appliquées dans ce pays. T'as déjà vu dans un bureau de tabac, un gars qui refuse de vendre des clopes à un jeune? Jamais vu ça de ma vie. Jamais. Alors, je suis pas tout le temps fourré au bureau de tabac. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Les buralistes, ils sont responsables. La plupart, ne vendent pas aux mineurs.
Après, tu demandes là au grand frère, quoi. Tu demandes au.
Voilà.
Celui qui est. Non, mais, franchement, on va aller mettre en porte-à-faux les petits épiciers là.
Est-ce que cette campagne de communication est utile?
Alors, bien sûr, mais j'ai regardé la loi. Elle a dû évoluer ces dernières années. J'étais resté sur le fait que bière, cidre, ça pouvait passer à partir de 16 ans. Même non, plus non, du tout, c'est non. Zéro alcool à partir de 18 ans. Et la loi, elle dit aussi, dans les restaurants, tu vas avec ton fils de 16 ans au restaurant, même accompagné de majeurs, il n'a pas le droit de consommer d'alcool dans les restaurants.
Bon. Le droit de servir un verre de vin.
Voilà. Même si c'est le parent qui le commande ou qui le paye, ouais, etc. Voilà. Donc, bon, j'entends. On va pouvoir conduire une voiture on peut conduire une voiture à 17 ans. On parle de pouvoir conduire à 16 ans. Finalement,
il y en a qui demandent à ce qu'on vote.
Ouais, voilà. Et finalement, c'est juste un grand de 18 ans qui ira acheter pour les jeunes de 16-17. Est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose qui soit un peu moins brutal et infantilisant en indiquant que à partir de 16 ans, on peut acheter les alcools légers? Bière,
tu voudrais assouplir la règle.
Oui, pardon, Dunkerque. Bière, une bière à 16 ans.
Locale,
une bière à 16 ans, ça me paraît quand même logique.
Ta première,
on va bientôt légaliser le cannabis, mais il faudrait empêcher les jeunes de boire une bière à 18 ans.
Légaliser pour les adultes, ça n'a rien à voir.
Oui, mais donc c'est bien sûr. Une bière à 16 ans, ça me paraît moins grave que légaliser pour les adultes.
À un moment, il faut une règle. Et la règle aujourd'hui, c'est que la majorité, c'est 18 ans. À 18 ans, on vote, on a le permis et on.
C'est vrai que c'est bizarre, c'est qu'on peut passer son permis à
17 ans.
Ans
maintenant le permis.
Maintenant c'est 17 ans le permis.
Certains parlent même de 16 ans.
Bah effectivement, il faut une règle et il faut uniformiser la règle. Moi, je crois que c'est en France, on a un gros problème avec la culture de l'alcool. Jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bouteilles de vin rouge à la primaire, en primaire, sur la table, à la cantine. T'as dû connaître ça, dans ton enfance, Didier. À la cantine.
Après la Deuxième Guerre mondiale, Didier, tu t'en souviens ?
Non, mais c'est quoi le ton que tu prends avec ça, quoi ?
T'as
non
eu ça,
mais franchement, non, dis-moi, c'est quoi le ton que tu prends avec ça,
c'est
quoi.
Pas si vieux que ça, dis-toi.
Non, mais voilà, je suis un vieux con d'alcoolique, c'est ça que tu veux dire, Flora? Non, mais vas-y, assume-le, quoi. Un minimum,
Assume-le,
un minimum.
Désolé, oui. c'est bientôt la pause estivale. On est tous un peu fatigués.
Moi, j'ai connu l'alcool à l'armée.
Voilà, je me fais engueuler, mais en fait.
Et à l'armée, moi, je me suis aussi engueulé. L'alcool, c'était.
Donc, en France, nous avons un problème culturel avec l'alcool, parce que l'alcool fait partie de notre culture. L'alcool est très dangereux pour la santé. Je pense que ça fait partie des sujets que nos enfants nous reprocheront. C'est-à-dire, quand nos enfants auront 20 ans, 30 ans, ils diront, mais vous êtes fous, vous buviez à table tous les jours, vous buviez du vin tous les jours. C'est très dangereux pour la santé, en fait.
Non, mais c'est une éducation aussi, Flora. On peut aussi éduquer ses enfants à goûter un verre de vin, à aimer ce qui est bon, et à aller mettre en garde contre les dangers de l'alcoolisme.
Je voudrais qu'on écoute Alexandra, parce qu'elle est hôtesse de caisse. Donc, elle va nous raconter son quotidien. Du côté de Sens, dans ce magnifique département de l'Yonne. Alexandra, bonjour, bienvenue dans Les Grandes Gueules. Raconte-nous comment ça se passe chez vous.
Alors, bonjour les GG. Oui, moi je suis hôtesse de caisse à Carrefour. Et en fait, il est interdiction de vendre de l'alcool à un mineur. Interdiction. D'accord. Et si on a une suspicion de mineur, on demande la pièce d'identité. Et si on n'a pas la pièce d'identité...
Jamais vu ça.
Ah ben oui, oui.
Non, non, mais j'étais peut-être pas en face, quoi, c'est tout.
Et lui, on demande sa pièce d'identité, et si nous ne la présentons pas, on refuse. Et on a des caisses libre-service, c'est pareil. Donc nous, il faut l'autorisation de la caissière, avec un ticket, pour l'aval de la caissière. Mmh. Et pareil, si le jeune ne nous présente pas sa pièce d'identité, on ne lui vend pas d'alcool.
Et comment ça se passe? Est-ce que parfois, il y a de la tension?
Alors, en général, ça peut arriver qui s'énerve un petit peu. Et dans ces cas-là, on a des agents de sécu qui font...
Qui interviennent.
Obligatoirement. Qui commencent à être agressifs ou violents ou insultants. c'est la Sécu qui doit s'en
charger. Parce qu'il faut préciser, Alexandra, si vous ne demandez pas la pièce d'identité, ça peut se retourner contre vous. C'est-à-dire que si derrière, il y a un contrôle et on voit ces jeunes sortir du Carrefour ou du Auchan, pour citer plusieurs marques, ou du Leclerc, mmh, avec un pack de bière, si la police qui arrive, la police va aller voir le patron du Carrefour, dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que ce jeune sort avec de la bière, et derrière, ça va vous retomber dessus. Hein.
Non, mais l'histoire que nous raconte Alexandra, j'y crois, il n'y a pas de problème.
Ah oui, Didier,
sauf que moi, je vais prendre une voiture, je vais aller à Sens, et je te garantis que des jeunes sur les trottoirs avec des packs de bière, on va en trouver. Quoi.
Alexandre a répondu à Didier qui ne croit pas ce que vous racontez.
Exactement, en fait, ça veut dire que nous, en tant que grande surface ou hypermarché, on est obligé. Par contre, il y a des petites supérettes.
Voilà.
Ils ne demandent pas forcément les pièces d'identité. Et nous, notre responsabilité, en fait, qui est grave, c'est que s'ils prennent un scooter et qu'on leur vend de l'alcool, s'ils se tuent en scooter, les parents peuvent porter plainte contre nous.
Contre Carrefour, contre vous comme personne physique.
Bah après, ça redescendra.
Exactement, parce qu'on est responsable de ces jeunes. Et si on leur vend de l'alcool, ça peut se retourner contre nous. Et c'est notre responsabilité de ne pas vendre de l'alcool à un mineur, surtout en scooter. S'ils se tuent, c'est contre eux.
Bah oui, mais vous avez raison, Alexandra, il y a une responsabilité.
La gravité du truc, je la conteste pas.
Merci Alexandra pour ce témoignage et bonne journée du côté de Sens. Il y a Antoine qui est à Saint-Nazaire et lui, il est barman et il a eu un cas hier qu'il veut nous raconter. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
En Loire-Atlantique, qu'est-ce qui s'est passé hier ?
Eh ben hier, moi voilà, je suis barman dans un hôtel. Il y a deux jeunes qui sont venus boire un verre, qui sont installés, voilà, etc. Donc ils voulaient.
Ils demandent quoi ?
Bah ils ont demandé deux mojitos.
D'accord. Donc avec de l'alcool.
Donc ils ont demandé deux mojitos. Donc voilà, comme ils avaient l'air jeunes, je leur ai demandé s'ils avaient 18 ans. Ils m'ont répondu oui. Je leur ai demandé s'ils avaient une pièce d'identité. Il y en avait qu'un des deux qui l'avait, malheureusement. Enfin pour l'autre. Hein. Donc voilà, j'ai vérifié, il était bien majeur. Et à l'autre, je lui dis malheureusement, j'ai un doute. Je peux pas vous servir d'alcool. Il m'a dit ouais, ok, je comprends. Donc il a pris autre chose et voilà, il n'y a pas eu de souci particulier. Mais moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, moi là-dessus, je suis intraitable. Dès que j'ai un doute, je demande la pièce d'identité de manière systématique. Et d'autant plus que si moi là où je travaille, donc j'ai ma terrasse, j'ai un petit chemin, un petit sentier, et de l'autre côté j'ai la plage. Imaginez si je sers de l'alcool à un mineur qui va aller se baigner et qui va se noyer derrière, comment on fait ?
Oui, donc vous êtes responsable et vous demandez la pièce, et là ça s'est bien passé du coup.
Ah,
le jeune l'a compris, il a commandé autre chose.
Mais moi j'ai jamais eu aucun problème dans le cadre de mon métier. J'ai jamais eu aucun problème à demander la pièce d'identité et s'il ne l'avait pas, je refusais de servir l'alcool et on va dire dans 99% des cas, les gens comprenaient. Je fais un parallèle, quand on va en boîte de nuit, on demande bien une pièce d'identité aussi. Ouais.
Là, ça s'est bien passé, mais parfois ça se passe moins bien. Et on est avec Malco qui est avec nous du côté de Fréjus, dans le Var. Bonjour Malco, vous êtes épicier, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Bah, on a l'impression que finalement ça se passe bien partout.
Ouais, c'est ça. Le 32-16, c'est le 32-16 des bisounours.
Non, justement.
Alors expliquez-nous, Malco.
Ouais, c'est Alexandra qui vend.
Donc moi, je voulais revenir sur ce que disait par rapport aux surfaces. Moi, j'ai une grande surface, une grande enseigne juste à 500 mètres de chez moi. Je peux vous dire que les petits, ils reviennent avec des bouteilles d'un litre. Moi, ils savent que je refuse la vente.
Voilà.
Ça les empêche pas d'aller au champ qui ferme jusqu'à 22h, revenir avec des bouteilles d'alcool et acheter leurs chiffres, leurs diluants, leurs bonbec chez moi.
Voilà.
Donc ça, déjà, la grande distribution, faut arrêter. Deuxièmement, on oublie qu'il y a les réseaux Snapchat. Donc la vente d'alcool aux mineurs, elle se fait sur d'autres réseaux. Ils n'ont pas besoin de venir dans les épiceries de nuit. Ils savent tous qu'on est contrôlés. Que ce soit la douane, la police municipale, la mairie, la préfecture. Moi, depuis que je fais ça, j'ai l'impression de vendre de la drogue. On est constamment contrôlés. Donc, et on nous tape toujours dessus, comme quoi, bonjour, l'épicerie, on est un petit peu des fourre-tout. Mais nous, on est des commerces de proximité, on se lève à 5h, on finit à minuit à 1h, on respecte nos clients. Il y a des gamins, on les voit, ils ont 15 ans, ils finissent, ils ont 20 ans. Donc, je pense que les trois quarts, après, comme dans tous les métiers, il y a toujours des fourbes,
voilà,
il y a toujours des mauvais, il y a toujours des malhonnêtes.
Toujours.
Mais il y a des gens qui
sont là. Merci Malco, non Didier.
On a bouclé la boucle.
Stop, Didier.
Alexandra nous dit c'est l'épicier. L'épicier nous dit c'est Alexandre. C'est la
merci, merci Didier Giraud. Dans un instant, c'est Aurore Berger, la ministre de l'égalité femmes-hommes, qui sera face aux grandes gueules. On a beaucoup de sujets à évoquer avec elle. Sa collègue Monique Barbu vient de démissionner. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
Monique.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.